Après un lundi noir au Proche-Orient, ou plutôt rouge de sang, journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza. 55 Palestiniens tués lors de heurts et de manifestations contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Une nouvelle journée à haut risque commence aujourd'hui. Les Palestiniens sont appelés à la grève générale pour protester contre la création de l'État d'Israël.
Et des tensions ravivées par les terroristes islamistes du Hamas dénoncent d'une même voix Israël et les États-Unis.
À la une en France, des examens à distance dans les facultés perturbées par des blocages et les syndicats de cheminots se félicitent d'un regain de mobilisation hier dans leur grève en pointillé. La persistance des grèves dans les transports ne risque pas de faire dérailler la croissance. C'est ce qui ressort des derniers chiffres de la Banque de France et c'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, la question du jour, protection des données personnelles sur Internet, va-t-on enfin pouvoir surfer sereinement? Eh bien, on posera la question à une avocate, Nathalie Metalinos.
Et si le pire était encore à venir, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas appelle à la grève générale aujourd'hui dans les territoires palestiniens pour commémorer ce qu'il appelle la Nakba, la catastrophe qu'a constituée pour les Palestiniens la création de l'État d'Israël en 1948, mais aussi pour honorer, je cite encore, les martyrs de Gaza. Au moins 55 Palestiniens ont été tués hier lors de heurts et de manifestations contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Plus de 2400 personnes blessées. Alors qu'elle tentait de forcer la barrière de sécurité entre l'enclave de Gaza et Israël. Emmanuel Macron a condamné les violences des forces armées israéliennes. L'autorité palestinienne crie au massacre. Et à Gaza, les hôpitaux ne s'attendaient pas à un tel bilan, Étienne Monin.
Dans le principal hôpital de Gaza, le parking est transformé en salle d'attente depuis lequel Emam Hamed attend des nouvelles de son fils, 29 ans, grièvement touché à la jambe malgré les avertissements de sa mère.
On s'attendait au pire aujourd'hui. J'avais demandé à mon fils de ne pas aller à la manifestation à cause de cela. Mais il m'a dit non, j'y vais, je vais mourir en martyr. On savait très bien que les Israéliens allaient réagir violemment. Et c'est ce qui s'est passé. Mais lui, il voulait mourir en martyr.
Le porte-parole du ministère de la Santé estime que l'hôpital Al-Shifa est débordé. Il demande du soutien matériel et humain. Les couloirs sont pleins. Des jeunes font la queue pour donner leur sang.
On est là pour donner du sang parce qu'il y a beaucoup de blessés. Avec les blessés d'aujourd'hui et de vendredi dernier, ils ont besoin de sang. Et nous, on est la jeunesse. On a du sang, donc on veut soutenir ces blessés.
À Gaza, la Croix-Rouge internationale a fait venir du matériel en avance pour soutenir les hôpitaux. Et MSF a renforcé ses effectifs.
Étienne Monin à Gaza pour France Culture. Alors que le président turc a qualifié hier Israël d'État terroriste, alors que la Syrie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte ont dénoncé l'usage disproportionné de la force par l'armée israélienne, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l'a justifié hier par le droit d'Israël à défendre ses frontières contre les agissements terroristes du mouvement islamiste Hamas qui gouverne Gaza. Israël, une fois de plus soutenu par les États-Unis qui déménageaient, je le rappelle, hier leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, l'indéfectible soutien américain à Israël, analysé par Isabelle Labéry.
Tout était dans le discours de Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, présent hier à l'inauguration.
Les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël parce que nous croyons, nous aussi, à la liberté, parce que nous croyons que la démocratie vaut la peine d'être défendue. Les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël parce que nous croyons, nous savons, que c'est ce qu'il faut faire.
Pas de prise de distance avec la façon dont l'armée tire sur les manifestants palestiniens. La diplomatie américaine tient sa ligne. Israël a le droit de se défendre contre les islamistes qui gouvernent Gaza et manipulent la population. Au point presse de la Maison Blanche dans la soirée, le porte-parole lâche le nom du coupable.
Well, we believe that, Hamas is responsible.
Nous pensons que le Hamas est responsable de ces morts tragiques. C'est lui qui, de manière cynique, a provoqué cette réaction qui a conduit à toutes ces morts. Le Hamas est entièrement responsable de cette situation.
Les États-Unis viennent de souffler si fort sur les braises qu'on les voit mal reprendre leur rôle de médiateur dans le conflit. Mais Donald Trump n'est pas à un paradoxe près. Son administration met la dernière main à un nouveau plan de paix qu'elle soumettra en temps voulu.
Isabelle Labéry à Washington pour France Culture. Et selon une source diplomatique, les États-Unis ont bloqué hier à l'ONU une demande d'enquête indépendante sur les événements meurtriers de la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir cet après-midi à l'initiative du Koweït. Le Proche et le Moyen-Orient en ébullition, sous tension après plusieurs décisions de Donald Trump. Le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem hier, on en parlait à l'instant, sur le dossier nucléaire iranien à présent. Après le retrait la semaine dernière des États-Unis du texte signé en 2015, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, est à Bruxelles aujourd'hui, fin de sa tournée diplomatique qu'il a menée à Pékin ce week-end et à Moscou hier pour tenter de faire survivre l'accord sur le nucléaire avec les signataires restants, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Enjeu européen décrypté à Bruxelles par Pierre Benazé.
Lors de sa tournée, Mohamed Javad Zarif n'a pas répété les propos de son vice-ministre, selon lequel l'Iran donne aux Européens un mois et demi à deux mois pour fournir des garanties, mais il réclame tout de même d'eux des assurances tangibles. Pour les Européens, l'accord fonctionne, il doit rester en vigueur, mais leur marge de manœuvre n'est pas énorme. Parmi les pistes évoquées figure l'idée de consentir aux établissements financiers iraniens des prêts en euros de la Banque européenne d'investissement pour sortir de la zone dollar, d'émettre des dérogations pour les entreprises européennes ou des lois dites de blocage qui consistent à dire que les sanctions étrangères ne s'appliquent pas aux entreprises européennes. Certains ont même avancé l'idée d'un accord de libre-échange, mais quoi qu'il en soit, il faudra une unanimité sans faille aux Européens, car les États-Unis pourraient, par exemple, répliquer à toute concession à l'Iran par l'imposition des droits de douane tant redoutés
pour l'acier. Et justement, aujourd'hui, le secrétaire américain au commerce doit s'entretenir avec la commissaire européenne au commerce sur les taxes douanières américaines de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, des taxes qui ont été provisoirement suspendues par la Maison-Blanche jusqu'au 31 mai à minuit.
7h06 sur France Culture, c'est la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu et avec le mouvement de protestation contre Parcoursup et la réforme de l'accès à l'université, les examens sont perturbés.
Après les étudiants de Nantes vendredi dernier, qui n'ont pas pu passer leur partiel délocalisé à Arcueil, au sud de Paris. C'était au tour hier des étudiants de Lyon 2, Aix-Marseille, Paris 8 ou encore Limoges, pour qui les examens n'ont pas pu se tenir. Certaines universités, Paris-Nanterre et Lyon 2, ont donc décidé d'organiser des examens entièrement à distance. Autre mobilisation sociale, celle des syndicats de la SNCF qui organisait hier une journée sans train ni cheminot. Plus de 27% de grévistes hier, 75% chez les conducteurs et les contrôleurs. C'est plus que lors de la dernière séquence de grève en pointillé. Plus de 10 000 personnes sur les 147 000 salariés à la SNCF ont par ailleurs déjà participé à la consultation lancée par les syndicats pour voter pour ou contre le projet de réforme du gouvernement. Une journée également marquée par des dégradations de matériel. En Normandie, dans les Hauts-de-France et à Marseille, la SNCF va porter plainte contre des actes qu'elle décrit comme un détournement du droit de grève. Mathias Vichra est directeur général adjoint de la SNCF.
On a eu des actes de malveillance qui ont été constatés, on en a dénombré à peu près une cinquantaine qui vont de rupture de caténaire au blocage de signalisation en passant par le blocage de voies. Pour le blocage de Marseille, il y avait des cheminots et il y avait aussi des non-cheminots. On nous a dit qu'il y avait notamment des dockers qui étaient parmi les personnes qui ont bloqué les voies. En revanche, il y a des dégradations comme la caténaire par exemple à Gaillon qui relève d'un savoir-faire particulier puisqu'il faut pouvoir être quand même assez habitué au matériel ferroviaire pour être en capacité de couper un élément de caténaire. Et donc effectivement, on a un faisceau d'indices qui nous montre qu'il y a une série de dégradations ou d'actes de malveillance qui ont plutôt été faits par des cheminots. Après, mon propos n'est pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble des grévistes, évidemment, hein. Ce sont des actes isolés, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des actes graves. Ça n'a rien à voir avec la grève, sauf que ça se passe pendant une journée de grève et que c'est, à l'annonce de certains syndicalistes, une manière de poursuivre la grève par d'autres moyens, et notamment des moyens de blocage, et donc c'est ce que nous dénonçons.
Mathias Vichera, directeur général adjoint de la SNCF, il répondait à Catherine Pétillon. Les gardes à vue de trois proches de Ramzat Azimov ont été prolongés hier soir pour déterminer si le djihadiste qui a tué un homme au couteau samedi soir à Paris et blessé quatre autres personnes, pour savoir s'il a bénéficié de complicité pour cet attentat revendiqué par le groupe État islamique. Ils sont 15 projets agricoles portés par des occupants de Notre-Dame-des-Landes qui vont faire l'objet d'une régularisation rapide. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Agriculture. l'agriculture, Stéphane Travert. Il a indiqué que 14 projets allaient également continuer à être examinés. Les projets déjà acceptés concernent de l'élevage, du maraîchage, des pépinières, des plantes aromatiques, médicinales, etc. Des projets variés, suivis par Antoine Dénécher.
Nous ne faisons pas d'exception pour les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est le message martelé par le ministre de l'Agriculture pour Stéphane Travert. Si 15 premiers projets agricoles sont acceptés par l'État après discussion en comité de pilotage, c'est bien parce qu'ils remplissent les critères habituels demandés à tout agriculteur en France.
Pouvoir être affilié à la MSA, justifier d'une compétence en matière agricole, être en mesure d'assurer la sécurité sanitaire, être en conformité avec la réglementation.
14 projets restent donc à examiner, explique le ministre de l'Agriculture, notamment parce que parfois ces terres sont réclamées par d'autres agriculteurs qui les avaient vendues à l'État dans le cadre du projet d'aéroport et désormais veulent les récupérer. L'État tranchera en octobre après la réunion du prochain comité de pilotage à Nantes, qui laisse donc du temps. Mais attention, rappelle Stéphane Travert, la fermeté reste de mise.
Je rappelle au nom du gouvernement que ceux qui ne sont pas engagés dans la démarche de nouveaux projets agricoles dans un cadre légal s'exposent à la poursuite des procédure d'expulsion, y compris avec le concours de la force publique.
La menace d'expulsion des occupants illégaux de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est donc maintenue, mais hier à Nantes, le ministre s'est bien gardé de donner un quelconque calendrier à ce sujet.
Antoine Dénécher de France Bleu Loire-Océan. L'Argentine peine à rassurer les marchés financiers. Le peso argentin n'en finit pas de dégringoler face au dollar. Il a reculé de 6,23% hier à la fermeture des marchés. Près de 20% de valeur perdue en 45 jours. Alors qu'à partir d'aujourd'hui, des créanciers pourraient demander à l'Argentine le remboursement de 25 milliards de dollars. Le spectre de la crise qui a secoué l'Argentine à partir de 2001 est dans tous les esprits et le président argentin a fait appel au FMI. Comment en est-on arrivé là? Les explications de Marie Viennot.
Le déclencheur de cette spirale infernale se joue sur le marché des changes. Et ce déclencheur n'est pas à Buenos Aires, mais à New York. Jusqu'à maintenant, les taux américains étaient bas et les investisseurs empruntaient en dollars pour investir dans des pays où la rémunération était plus grande, notamment en Argentine. Depuis que les taux américains sont remontés, la demande en peso argentin chute et le cours de la monnaie argentine face au dollar chute aussi. Le problème est double. D'abord, cela renchérit le coût des importations, ce qui alimente l'inflation. Or, l'Argentine n'avait pas besoin de ça. Son inflation annuelle taquine les 25% et dernièrement, le gouvernement a mis fin aux subventions accordées pour l'eau, le gaz et l'électricité, si bien que le prix de ses biens a déjà bondi de 40% en un an. Quand le peso descend, les Argentins, échaudés par la crise des années 2000, achètent des dollars et cela alimente la spirale baissière de leur monnaie. Deuxième problème, depuis que le pays est revenu sur la scène internationale il y a 2 ans, il emprunte en dollars. Donc quand le dollar monte, cela lui coûte plus cher de rembourser sa dette. En 2001, l'Argentine avait dû se déclarer en faillite et c'est ce souvenir qui pousse encore plus les investisseurs à fuir le peso argentin. Pour le moment, le pays a encore les reins solides. Il dispose de solides réserves en dollars et peut compter sur le soutien affiché du FMI. Mais il y a clairement un début de feu à éteindre.